vous êtes bien sur IDFM Radio, c'est le retour de toute la culture que j'aime. Votre rendez-vous culturel du vendredi avec Marie-Laure et moi-même Agnès. Très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée au programme de cette émission du théâtre avec la nouvelle comédie tonitruante d'Élodie Menant, Le Gros qui fume. C'est au Théâtre des Béliers parisiens à Paris. L'exposition merveilleuse au Grand Palais sur l'art brut. Et enfin, l'interview de Jérôme Arnaud Wagner, l'auteur au best-seller, qui va nous parler de son dernier roman, Les Échos du Temps. Restez avec nous sur IDFM Radio, c'est toute la culture que j'aime. Et sans plus attendre, écoutons la metteuse en scène, autrice Élodie Menant, qui nous parle de sa dernière création. Je suis au Théâtre des Béliers parisiens à Paris. Je viens de voir une comédie, Le Gros qui fume, et je reçois l'auteur, metteuse en scène, Élodie Menant. Bonsoir.
Bonsoir.
Élodie, tellement contente de vous interviewer après cette pièce, cette comédie à succès qui marche super bien. Voilà, vous venez de commencer en plus, c'est dans Paris, c'est donc au Bélier parisien. Alors Élodie Menant, vous connaît bien, vous a déjà reçu bien sûr Arletty, c'était il y a 5 ans, Molière de la révélation féminine pour votre rôle Arletty, hein, dans Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, ensuite Je ne cours pas, je vole. Et là, votre dernière création, Le Gros qui fume.
Comme une cheminée en hiver, oui, c'est la suite du titre.
Voilà, alors une pièce que je vous recommande pour plusieurs raisons, on va en parler. D'abord, c'est très original, je trouve que c'est optimiste et ça parle de la vie, ça parle des rencontres et ça parle du hasard. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans Le Gros qui fume ?
Alors, c'est comme vous disiez, c'est une histoire qui va mélanger plusieurs destins. Donc déjà, il faut expliquer que c'est une histoire vraie et c'est une histoire rocambolesque. Et c'est important de l'avoir en tête parce que si on la voyait, si c'était monté au cinéma ou ailleurs, on pourrait dire « Oh là là, ils en font trop, c'est exagéré » et pas du tout. Tout est inspiré de faits réels, donc ça rend l'histoire encore plus magique. Et là, on a un auteur qui est argentin, mais qui vit en Espagne et qui aimerait retourner dans son pays d'origine, mais il n'ose pas parce qu'il vit avec sa femme et sa fille en Espagne. Et sauf que ça se passe mal avec sa femme, il n'ose pas se séparer parce qu'il ne veut pas perdre sa fille. Il se retrouve un peu engoncé comme ça dans sa vie, alors il écrit. Et un jour, il va faire un pari, qu'on va dire être un pari stupide au départ, et qui va l'obliger à aller en Argentine. Et là, va se passer énormément d'événements, notamment il va faire un infarctus, mais ensuite il va rencontrer des tas de gens. Et des destins vont se croiser comme ça. Tout semble catastrophique, et à un moment, tout devient merveilleux. Et c'était vraiment un spectacle que j'avais envie d'écrire pour pouvoir redonner de l'espoir, redonner du souffle. Se dire que c'est vrai que dans nos vies, on est souvent bousculés. On est souvent embêté par des événements qui sont parfois difficiles à surmonter, mais de toujours garder en tête qu'à un moment, la joie, le bonheur, les choses positives peuvent réapparaître, et ça, faut jamais le perdre de vue. Et de toujours, en effet, être en mouvement, c'est ce qu'on dit à la fin de la pièce, mais c'est ce qui me tient à cœur. Il y a une autre phrase que j'aimais bien, qui n'est pas dans la pièce, mais qui dit... Les poissons morts se laissent emporter par le courant. Et un peu ça, tant qu'on arrive à aller à contre-courant, comme la truite qui va remonter son eau, ou l'océan qui va remonter les rivières pour pouvoir aller pondre son œuf. Tant qu'on est comme ça dans cette envie de vivre, dans ce souffle et dans le fait de pas se laisser embarquer par les tracas du quotidien, et ben je suis sûre qu'il y a toujours des récompenses.
Alors il y a beaucoup de péripéties hein, dans la pièce, vous le disiez tout à l'heure, hein, la rencontre entre ces deux couples, la maladie, l'entraide, et puis tout le côté positif. Les décors aussi, je trouve que les décors modulables sont très ingénieux, vraiment, ce qui fait que la mise en scène... est vraiment spectaculaire.
On passe du studio de radio à l'hôpital, au stade. On est en Argentine.
Dans la voiture.
Voilà, je crois que vous aviez un peu trois thèmes.
Ouais.
Finalement, vous vous êtes basé sur la radio.
Oui. Oui, je voulais que la radio soit notre fil conducteur parce que donc le personnage principal est animateur de radio. Il écrit des livres et il anime des émissions. Et cette histoire a vraiment été racontée en Argentine. Donc je me suis dit, je vais partir de ce postulat et ça va être notre fil conducteur et ce à quoi on pourra se raccrocher pour pouvoir raconter tous les événements et tout ce qui va se passer. Parce que la difficulté dans mon écriture était qu'il fallait... Il fallait pouvoir changer de pays, être en Espagne, en Uruguay, en Argentine, changer de temporalité, mélanger les histoires, et c'était pas simple de trouver la bonne structure. Et donc la radio permet d'avoir un quelque chose de plus fixe et de nous ramener à un présent et de se dire « Ah oui, c'est vrai, on nous raconte une histoire, on se laisse embarquer et on a notre guide qui est Juan Moreno dans l'histoire. »
Voilà, puisque finalement, Juan, l'animateur radio, est là quand il est dans son pays au départ en Espagne.
Oui.
Mais il est là aussi à la fin en Argentine, un peu comme un narrateur.
Oui, tout à fait. Oui,
il a
une petite place de narrateur et en même temps, il vit chaque situation. Il vit le moment où il doit se séparer de sa femme. On le voit dans tout ce qu'on peut tous vivre de difficultés, de ruptures amoureuses, de séparation, de divorce et de comment on gère un divorce avec une enfant. Tout ça, c'est tellement proche de chacun. Et c'est ça qui me plaisait. Alors en effet, on ne parle ni de politique, ni de grande guerre, ni de conflits très forts dans le monde, mais on part de nos vies.
Juste
et de notre
nos
quotidien.
Vies. Et évidemment, je le disais au départ de cette interview, il est question de hasard. Vu qu'un homme, à un moment, Juan, va être sauvé, hein, il fait un infarctus, bon, on va pas tout raconter, mais il va être sauvé, voilà. Alors, est-ce que c'est le hasard? Cette femme, en effet, a travaillé, la femme qui va le conduire, a travaillé dans les hôpitaux.
Oui, il n'y a que des concours de circonstances et on a tous eu, je pense, ces moments dans la vie et c'est ça qui la rend magique. De comme par hasard, à tel moment, ce jour-là, j'ai rencontré un tel et ça a permis de trouver telle chose, de déboucher sur tel travail. Et c'est ça qui est fou. Parfois, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que subitement toutes les planètes s'alignent? Et là, en effet, il y a le parcours de Juan et il y a le parcours d'Agustin qui, lui, a aussi d'autres soucis et tout va s'aligner.
Voilà, finalement, quelqu'un va l'aider un moment pour sa profession et on va voir que les planètes s'alignent. Alors, vous avez également comme thème la magie.
Oui.
Puisqu'on parlait de hasard, mais on peut rapprocher ça aussi à des événements magiques qui vont se passer. Et pour ça, vous avez peut-être choisi ces panneaux, non, ces fameux panneaux roulants.
Oui, les panneaux roulants, c'était évidemment déjà de me permettre de changer de lieu de façon simple, même si vraiment à mettre en place, c'est très long et très fastidieux parce que c'est toute une orchestration de qui prend quel élément pour tout faire tourner, tout faire bouger et ça prend beaucoup de temps. Mais ça me permettait d'apporter justement ce mouvement, le fait de qu'on soit en action et de trouver une fluidité d'un passage à un autre. Et en même temps, le côté un peu magique, parce que la lumière se fait et on est déjà dans un autre lieu, on a à peine vu les décors bouger et on a déjà un autre endroit, un autre espace, juste en ayant fait pivoter un panneau, en ayant mis d'une autre position dans un autre angle. Et on est toujours surpris par un nouveau lieu. On se dit pas, ah, tiens, ça, j'avais déjà vu ce décor. Ça bouge tout le temps.
Alors, la radio, on en a parlé, ça tombe bien puisque justement, on est dans quasiment dans un studio radio. Hein. Et votre troisième thème, c'est aussi le voyage.
Le voyage,
donc,
ouais.
Avec,
ouais.
Avec la musique, hein, la musique argentine, les lumières aussi très importantes et tous vos décors.
Qui sont assez colorés pour rappeler un peu la chaleur de ce pays. Et en effet, moi je suis partie en Argentine parce que Gaston Rey, avec qui on a initié le projet, lui est argentin. Et donc on a pu m'emmener là-bas et y a vraiment la chaleur des gens là-bas, ils sont toujours très prévenants, ils nous prennent dans les bras, ils sont joyeux et j'avais envie que ça puisse ressortir aussi. Oui.
Vraiment un succès puisque là la salle était quasiment comble, hein. Vous avez commencé il y a 15 jours, il y a toujours autant de monde.
Oui, il y a toujours autant de monde, ce qui est assez surprenant alors que c'est la rentrée.
Oui. Depuis 15 jours, je rappelle, hein, donc c'est le gros qui fume comme une cheminée en hiver. Le nouveau spectacle d'Élodie Menant, et c'est donc au Théâtre des Béliers Parisiens dans le 18e jusqu'à fin octobre.
Même plus, a priori, voilà. On va voir.
On va citer les comédiens.
Oui, bien sûr.
Élodie.
Donc il y a Floriane Vincent, Marc Pistolesi, Pierre Benesi et Lauriane Escaffre.
Merci beaucoup Élodie. Je rappelle, donc vous êtes l'auteur de cette pièce et la metteuse en scène. Le gros qui fume, c'est à Paris, au Théâtre des Béliers Parisiens.
Du mardi au dimanche.
Mardi, donc du mardi au dimanche à 21h.
Exact, et le dimanche à 15h.
Et le dimanche à 15h. Il reste quand même quelques places.
Oui, je pense, mais il faut bien réserver à l'avance.
D'accord, très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
À bientôt, et à surtout, bientôt. Chers auditeurs, courez voir cette pièce parce que c'est tellement optimiste. Ça fait du bien en ces temps où on a besoin de choses qui nous portent et qui nous donnent l'envie de réaliser nos rêves.
Oui, voilà. Tout à fait. Merci.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Roseanne, yeah. Now she's gone.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime, votre rendez-vous du vendredi soir. Nous venons d'entendre Rosanna de Toto et je reçois pour nous parler de l'exposition sur l'art brut qui se tient au Grand Palais jusqu'au 21 septembre, Bruno de Charme. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureuse de vous recevoir sur nos antennes et merci de nous consacrer ces quelques minutes. Vous êtes le commissaire de l'exposition sur l'art brut au Grand Palais. Je vais introduire un petit peu tout ce que vous faites, hein. Je vais parler de cette exposition et après je vais vous poser des questions sur ce magnifique événement. Alors Bruno de Charme, vous êtes réalisateur, mais vous êtes surtout un immense collectionneur d'art brut depuis plus de 40 ans. Vous avez réuni environ, vous nous donnerez plus de détails, 6000 œuvres. Voilà, votre connaissance de cet art est encyclopédique. En 2021, d'ailleurs, vous avez fait don de 1000 œuvres au Centre Pompidou. Alors, je rajoute que cette fantastique exposition au Grand Palais est coproduite par le Grand Palais et le Centre Pompidou. C'est une véritable consécration de l'art brut. Pour rentrer un peu dans les détails, l'exposition présente 400 œuvres sur 200 niveaux, sur deux niveaux, pardon, dans un des espaces d'exposition les plus prestigieux de Paris, il faut le dire, c'est une grande chance. Je précise d'ailleurs que le Grand Palais, qui vient d'être rénové, réaménagé, est ouvert au public. Alors l'exposition est payante, hein, bien évidemment. Le Centre Pompidou vous a confié le commissariat de l'exposition, qui est un grand honneur pour vous, Bruno de Charme. Vous nous proposez un véritable carnet de voyage et surtout l'occasion de découvrir ces artistes venus du monde entier, leurs questionnements, leur vision du monde à travers leur regard poignant. Alors, beaucoup de techniques différentes représentées, des artistes de plus de 30 pays, des artistes célèbres, d'autres plus anonymes. Alors, j'ai remarqué que souvent, les artistes présentés ont vécu dans les années 80, 90, 2000. Donc, une question tout de suite m'est venue en tête, l'art brut a eu le vent en poupe dans les années 50 jusqu'à peut-être 2000. Alors, qu'en est-il de l'art brut aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des artistes contemporains?
Alors déjà, je vais rectifier un tout petit peu votre magnifique introduction. C'est que il y a le commissariat, je l'ai assumé avec Barbara Safarova, avec qui je travaille depuis 30 ans, et c'est vraiment une exposition qui a été montée à quatre mains et à deux cerveaux, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est important, puisque on se répartit un petit peu les rôles, elle étant vraiment la conceptrice, c'est une philosophe, et moi je suis vraiment le collectionneur, donc voilà, on se complète comme ça. Alors, pour aussi peut-être un petit peu préciser les choses, les œuvres qui sont présentées, pour les plus anciennes, la plus ancienne date du XVIIe siècle, donc vous voyez, ça date pas d'hier, et la plupart vont de la fin du XIXe, même le milieu du XIXe, jusqu'à aujourd'hui. Alors, évidemment, le concept d'art brut a été imaginé, proposé par Jean Dubuffet au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et c'est à partir de là qu'il a commencé effectivement à réunir toutes ses œuvres anciennes et celles qui pouvaient trouver qui était contemporaine à lui. Donc nous avons un petit peu fait le même chemin, si je puis dire, en ayant également réuni des œuvres anciennes, comme je viens de le dire, mais aussi qu'on trouve encore aujourd'hui. Alors on les trouve, j'ai envie de dire, un peu partout, c'est un bouche à oreille le plus souvent, mais c'est le hasard aussi d'un voyage, puisque on a beaucoup voyagé dans des lieux divers, et puis on vous dit, ah bah tiens, il y a dans tel village ou tel endroit quelqu'un qui fait ça, ça peut peut-être t'intéresser, puis on va voir. Voilà, donc c'est vraiment glané comme ça, puisque évidemment, je dirais par définition, l'art brut était un art de la marge. Donc forcément, la marge, on la trouve dans la marge et on la trouve pas comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un marché, puisque récemment, il y a un marché qui s'est un petit peu institué. Mais il n'empêche que ces œufs, faut aller les débusquer. Voilà. Les sauver, souvent d'ailleurs, de la destruction. Puisque la plupart, sont faites par des gens qui, presque, une fois qu'ils ont produit, fait, se désintéressent un peu de leur travail, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc c'est vraiment un travail de prospection et j'ai envie de dire de sauvetage, voilà.
Oui, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on découvre toujours des artistes de l'art brut ?
Alors, en fait, si vous voulez, comme je viens de le dire, c'est-à-dire c'est vraiment un art de la marge. Or, la marge se déplace. C'est-à-dire que les marges qu'on pouvait trouver à la fin du 19e siècle ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Jusqu'aux années 50, plus ou moins, il y avait énormément d'œuvres qui venaient d'hôpitaux psychiatriques ou de lieux comme ça, d'exclusion institutionnelle. Là, la psychiatrie, je dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle a pris des formes complètement différentes, ce qui fait qu'il y a très peu de gens qui sont réellement internés et un petit peu aidés, si vous voulez. Donc, il y a une déshérence dans les rues. Vous voyez, il suffit de vous promener dans les villes et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Enfin, c'est assez terrible. Tous les phénomènes de marge, tous les phénomènes de gens qui sont en dehors du système, ben on les trouve partout. Donc cette marge effectivement a évolué et c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce que je vais revenir sur cette idée de marge ? C'est pas le phénomène sociologique est évidemment important, intéressant, touchant, mais c'est pas notre domaine. Nous, notre domaine, c'est vraiment le domaine esthétique. Alors pourquoi est-ce que la marge nous intéresse ? Parce que précisément, ces artistes ne se réfèrent pas au mainstream. Et donc, par conséquent, ils trouvent dans leur propre vécu, qui est donc marginalisé, leur propre forme, leur propre créativité. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, c'est tout l'enjeu de l'art brut, et pourquoi ça nous touche, pourquoi c'est intéressant. Certes, ce sont des vies qui sont bouleversantes, et donc, évidemment, nous touchent, mais j'ai envie de dire que le facteur numéro un pour un collectionneur ou pour une exposition, c'est vraiment la valeur esthétique qui prime.
Alors, ce qui est très touchant, vous le disiez tout à l'heure, c'est que bien souvent, ce sont des artistes en situation de grande précarité, de souffrance, de handicap, voilà, ou venant d'institutions médicalisées. On voit des histoires dans cette exposition-là qui est phénoménale, avec plusieurs thématiques comme ça, plusieurs parties et des petites capsules vidéo de 2 minutes. Par partie, par section, qui nous explique, qui nous apprenne toute l'histoire de ces artistes, on découvre des histoires, mais vraiment passionnantes. Et je trouve que aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça remet aussi les choses à leur place. Je pense notamment à ces artistes qui veulent donner des messages de paix, voire sauver l'humanité. Oui. Je pense à Anselme Bois ou...
Anselme Bois vive.
Oui, ou Melvin Way, enfin, ou John
Way. Oui, parce qu'en fait, souvent, ces gens se sentent investis d'une mission, consciemment ou inconsciemment, mais ils se sentent quand même investis d'une mission d'aide pour l'humanité. Alors, ça s'exprime parfois difficilement, verbalement, mais à travers leur travail, il y a effectivement l'envie, la nécessité pour eux de nous sauver. Quand vous citez par exemple Anselme Boisvive était un marchand de légumes à Moutier dans la en Savoie, si je ne dis pas de bêtises. Et au moment de sa retraite, il a perdu son épouse et probablement il y a eu une sorte de choc psychique pour lui, une grande difficulté émotionnelle. Et là, à partir de là, il s'est mis en dehors. Il s'est mis à peindre des multitudes de gouaches absolument extraordinaires représentant des personnages lunaires, des personnages d'autres lieux imaginaires, mais aussi et aussi il a écrit un traité pour la paix qu'il a envoyé d'ailleurs, mais réellement, à Kennedy, au pape, à De Gaulle, à tous les gens importants du monde, en leur disant, écoutez, moi je pense avoir peut-être la solution pour que nous ayons la paix sur Terre. Alors il n'était pas du tout content parce que tous ces gens n'ont jamais répondu, donc il était quand même très offusqué que trouvant des solutions, on ne lui réponde pas. Voilà, et donc il y a souvent des histoires comme ça qui sont à la fois bouleversantes et en fait, en même temps pleine de justesse, parce que malgré la marge, malgré la précarité, c'est des gens qui touchent tout le temps, enfin souvent, mais je dirais tout le temps, des points essentiels de notre vie, de notre être. Donc ils sont effectivement déconnectés, et en même temps, je dirais qu'ils sont proches de l'essentiel. Et c'est pour ça que ça nous touche, parce que s'ils étaient totalement, comme on dit vulgairement à l'Ouest, ça ne nous intéresserait pas, ça ne nous toucherait pas, ça nous serait étranger. Or, quand on voit une exposition comme ça, ou quand on voit ses œuvres, on est touché, parce que elle résonne en nous profondément sur des zones, dans des endroits qui sont pour nous fondamentaux. Voilà.
Oui, c'est ça.
Et je crois que c'est toute la valeur à la fois esthétique et émotionnelle de l'art brut.
Oui, je pense à Joseph aussi, si je dis pas de bêtises, Girardot, qui a passé sa vie à calculer la vitesse de la lumière.
Ben oui, parce que la vitesse de la lumière, c'est pi, je sais pas quoi, virgule, blablabla, et ça n'en finit pas. Et pour lui, c'était insupportable de dire qu'il y a des scientifiques depuis des siècles qui réfléchissent, qui s'y sont pas fichus de trouver le chiffre parfait. Et pour lui, c'était absolument insupportable. Donc, c'était un charcutier. Et le soir, il s'enfermait dans sa chambre et il passait ses nuits à faire des calculs sur des grands, grands rouleaux qui parfois font 7 ou 8 mètres. Où il calculait pour arriver à obtenir le chiffre parfait de la vitesse de la lumière. Donc il a envoyé ça au CNRS en leur disant, écoutez, voilà, je pense avoir trouvé la solution. Mais malheureusement, le CNRS lui répondait que l'hypothèse, effectivement, était bonne, mais qu'après, les calculs fonctionnaient pas. Donc il était quand même très, très blessé par ça. Donc voilà, il y a toujours cette volonté de maîtriser, de sauver. Il y a ce côté messianique qui est vraiment présent dans l'art brut, évidemment.
Oui, et je pense aussi à Melvin Way, qui a fait des formules chimiques pour guérir, qui se pensait maître du monde et qui a inventé un atome, c'est ça, pour l'immortalité ?
Oui, absolument. Il a inventé un atome pour l'immortalité. Il a aussi inventé des formules pour soigner le cancer. Mais bon, c'est quand même, c'est quelqu'un qui se disait immortel lui-même, qui disait être né il y a 10 000 ans et être en même temps né hier ou demain. Donc c'est vraiment, alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui est très, en perdition psychique, si je peux dire, là vraiment, où on est vraiment dans un cas de... Mais en même temps, c'est toujours pareil, cette perdition, en même temps, s'accompagne de sortes de révélations et de justesse qui nous concernent. C'est vraiment ce mélange des deux qui est complètement fascinant, parce que à la fois... On est face à des gens qui sont effectivement perdus dans le monde et en même temps qui nous révèlent des vérités sur le monde. En tout cas, qui nous indiquent des choses importantes pour nous.
Oui, alors cela donne des sculptures, cela donne des collages, des installations photos, des peintures, des dessins de l'écriture qui sont totalement magnifiques. On fait juste une petite pause musicale. On vous reprend tout de suite. Vous restez en ligne. On écoute celui qui... chante Michel Berger, on vous reprend Bruno de Charme, ne quittez pas.
Celui qui chante son histoire, à notre histoire, au fond de lui. Celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Voilà, nous venons d'entendre celui qui chante, Michel Berger. Nous allons continuer l'interview sur l'art brut avec son commissaire Bruno de Charme, exposition passionnante au Grand Palais à Paris jusqu'au 21 septembre. Alors comment Bruno, encore quelques questions et puis on vous libère. Comment avez-vous opéré le choix des œuvres, puisque vous avez une collection de 5000 œuvres, je le disais tout à l'heure, et vous avez fait cette sélection donc de 400.
Alors déjà les 400 œuvres viennent de la donation que j'ai faite en 2021 de 1000 œuvres au Centre Pompidou. Donc ça, c'est maintenant la collection du Centre Pompidou, à partir desquelles on en a sélectionné 400, effectivement. En fait, on a travaillé par thème, parce que ce qui nous... Je continue un petit peu le propos de tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, c'est de dire que même si ces gens, ces artistes sont... éloignés de nous, sont dans la marge, en même temps, comme je le disais, ils se préoccupent de choses qui nous concernent tous. Donc en fait, on a tous les mêmes préoccupations. Je crois que depuis que l'homme est homme, d'autrefois à aujourd'hui, on a tous les mêmes préoccupations. La seule chose, c'est que eux regardent le monde différemment. Donc on a repris des thèmes universels, si je puis dire. C'est effectivement l'écriture, la science, le langage, le voyage,
la spiritualité, voilà. Donc, le ciel aussi.
voilà, le ciel, donc des thèmes qui nous sont propres, et voir comment ils regardent le monde. Donc la division s'est faite à partir de ces 12 thèmes essentiels, dans lesquels également il y a des voyages, puisqu'on a fait beaucoup de voyages au Japon, en Amérique latine, etc., pour montrer qu'il n'y a pas qu'en Europe, évidemment, que cet art s'exprime. Donc en fait, à partir de ces thématiques, ben, on a organisé notre sélection pour donner, si vous voulez, une sorte de un peu de panorama du sujet. Voilà.
Il y a donc des artistes reconnus hein, dans l'art brut. Il y en a d'autres plus anonymes. Alors je pense à des artistes très reconnus comme Augustin Lesage, Wolf Lee également.
Oui, alors c'est étonnant de le dire, mais maintenant il y a des stars, évidemment. Alors des stars, pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont été collectionnés depuis très longtemps, d'abord par la plupart par les surréalistes, qui se sont évidemment intéressés au sujet même avant Dubuffet. Donc ils se sont intéressés effectivement à Augustin Lesage, qui était un mineur, dans le nord de la France et qui est passé de la mine, j'ai envie de dire, à la lumière d'être un artiste reconnu. Et puis il y en a aussi Adolphe Wolfli, qui est vraiment la grande figure de l'art brut, pour avoir en quelque sorte tout réinventé, et qui a été interné dès l'âge de 20 ans. Et du jour où il a été interné, il a dit: de ce jour-là, j'ai tout oublié. Et à partir de là, il a tout réinventé. Mais réinventé son histoire à lui, une histoire fantasmée, mais aussi l'histoire du monde. L'histoire, la géographie, le système métrique, tout ce qu'on peut imaginer d'encyclopédique, il l'a proposé. Et puis il y en a qui ont été découverts plus récemment, comme un artiste extraordinaire qui s'appelle Henry Darger, qui était un artiste américain, qui a fait des grandes fresques de 2 mètres qui illustraient un roman qu'il a écrit, et qui a été découvert par des Américains il y a maintenant une quarantaine d'années, et qui est devenu voilà. Ça, c'est parce que le marché a commencé à exister dans l'art brut, c'est très récent, hein, il y a à peu près une trentaine d'années. Et quand il y a marché, bah forcément, quand deux personnes veulent la même chose, bah, y a des prix qui montent. C'est regrettable ou pas, j'en sais rien, c'est un autre débat, il faudrait y passer des heures pour en discuter. Toujours est-il que c'est un fait, c'est des œuvres qui maintenant ont des valeurs importantes sur le plan du marché, et qui sont en soi des œuvres absolument extraordinaires, en plus, évidemment.
Alors l'art brut est présenté à Paris, dans quelques institutions, hein, notamment la Halle Saint-Pierre, mais également en Suisse, à Lausanne. Est-ce que certaines institutions sont venues voir cette exposition, les grandes institutions nationales?
Alors ça commence à bouger, ça a été long, hein. Parce que si le gros problème de ce sujet, c'est que l'art brut casse complètement les codes, c'est-à-dire que c'est une sorte de dynamite dans l'histoire de l'art, même dans l'histoire tout court, parce que comment est-ce que des artistes qui n'ont aucune éducation artistique peuvent produire des œuvres aussi exceptionnelles? Donc évidemment, pour des historiens de l'art qui se sont penchés toute leur vie sur l'histoire d'artistes qui se sont influencés les uns les autres, enfin qui ont raconté une histoire, c'est évidemment extrêmement perturbant. Donc ça veut dire que les outils que nous utilisons dans nos travaux de recherche, c'est quasiment pas l'histoire de l'art, puisque ces artistes sont ont produit en dehors de l'histoire de l'art. Maintenant, ils sont intégrés dedans. Mais il n'empêche qu'ils étaient à l'origine, leur origine personnelle, en dehors de cette histoire. Donc nous, on utilise la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, l'histoire du monde, la géographie, etc., pour essayer de comprendre comment ils lisent le monde. Alors forcément, pour les institutions, c'est très perturbant, parce que ça les oblige un petit peu aussi à faire des pas de côté de réflexion, mais en même temps, c'est un outil extraordinaire critique pour retravailler et réécrire l'histoire de l'art. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se fait depuis, j'ai envie de dire, l'histoire du XXe siècle, et aussi pleine de ces brisures, de ces cassures, de ces remises en question. Donc forcément, ça intéresse les institutions, mais en même temps, ils continuent eux-mêmes à être formés d'une façon très académique. Même s'ils s'intéressent à des œuvres qui ne le sont pas, il n'empêche que donc les outils sont complexes, il faudra du temps. Et voilà, c'est vrai que c'est de le fait que cette collection soit maintenant au Centre Pompidou, c'est vraiment un événement très très important dans l'histoire, pour l'histoire de l'art, puisque c'est, alors il y a eu une autre donation importante qui était au LAM, qui est un musée qui est dans le nord de la France, où il y a eu effectivement aussi une donation d'art brut. Aux États-Unis, le MoMA s'intéresse aussi, enfin voilà, ça, c'est en train de rentrer dans les institutions, mais c'est pas simple pour des raisons, j'ai presque envie de dire intellectuelles.
Merci beaucoup Bruno Decharme pour cette interview. Merci de nous avoir parlé de cette formidable exposition sur l'art brut au Grand Palais jusqu'au 21 septembre. Vous êtes donc le commissaire de l'exposition avec votre épouse Barbara Safarova. Merci.
Absolument.
Bonsoir.
Merci.
Nous écoutons tout de suite Viens je t'emmène. Allez, France Gall.
Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas.
êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre « Viens, je t'emmène » France Gall. Et je reçois Jérôme Arnaud Wagner. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureuse de vous retrouver sur nos antennes. Mais alors, quelle fidélité, hein ?
Oui, presque pour tous mes romans, je suis invité. Et puis, vous avez passé « Viens, je t'emmène », qui est tout à fait une belle transition vers ce que j'écris.
C'est vrai que, voilà, vous nous rendez visite à chacune des sorties de vos romans. Cela a commencé il y a 15 ans, Jérôme. En 2010, la sortie de votre best-seller « N'oublie pas que je t'aime ».
Oui, c'est une histoire que... j'avais écrit en hommage à ma femme disparue à l'âge de 35 ans, qui me laissait seule. Elle disparaît suite à une erreur médicale, donc après, avec deux petits garçons de 4 ans à l'époque. Voilà, ils ont 29 ans maintenant et on est en train d'adapter au cinéma le « N'oublie pas que je t'aime ».
Oui, alors nous allons parler de votre dernier roman qui vient de sortir, « Les échos du temps », qui est sorti donc chez Ramsay. Alors, vos romans traitent souvent d'amour, ça nous touche, d'amour éternel, du grand amour, hein. Mais il est aussi question de retourner dans le passé, de faire revivre, en tout cas, l'être disparu ou des sentiments. Bien souvent, c'est des voyages initiatiques à travers le temps. Des âmes sœurs qui se retrouvent éloignées par des siècles. Comme si on pouvait faire un retour dans le temps. L'écriture, pour vous, c'est un peu un moyen de transcender le réel. Alors, dans les échos du temps, eh bien, deux histoires vont se télescoper autour d'un manoir dans le sud de la France. Alors, il y a une histoire qui va se passer en 1930, hein, avec une comtesse que l'on va retrouver plus tard, et une histoire qui se passe aujourd'hui, en 2024, avec un couple qui va acheter ce manoir et qui va se rendre compte des échos dans les murs, finalement. Les deux histoires se télescopent.
J'avais envie d'écrire sur la mémoire des murs. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je crois que les lieux ont une âme. Et donc, j'avais envie d'écrire sur une histoire qui se passerait dans le même lieu. Et on alterne d'un chapitre sur l'autre entre l'histoire contemporaine de ce jeune couple qui a racheté ce manoir visiblement pas très cher. Ils sont étonnés, mais dont on se rend compte que dans le village, il y a des rumeurs de malédiction. Et effectivement, ils commencent à avoir des visions d'une histoire qui se serait passée donc un siècle avant, avec cette fameuse comtesse qui est enterrée dans le parc. Voilà, et on va petit à petit se rendre compte que leurs histoires sont imbriquées. Il y a le poids des héritages familiaux et qui ne sont pas là par hasard.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est aussi un livre sur le poids des transmissions entre familles.
Vous avez raison de dire que j'ai beaucoup écrit sur l'amour absolu. Alors évidemment, il y a aussi une très belle histoire d'amour dans Les Échos du Temps, mais j'aborde d'autres sujets. Je sors un peu de ma zone de confort, je crois, et j'aborde le transgénérationnel, la résonance du passé, la sororité aussi, puisque c'est une histoire aussi de transmission familiale entre deux femmes. L'une sans divulgâcher, comme on dit, vient un peu terminer ce que avait commencé l'autre, subissait, je dirais, les normes sociales d'un mari tyrannique à l'époque.
Tout à fait, puisque la comtesse doit se marier, on va pas tout révéler à nos auditeurs, doit se marier contre son gré. Et là, évidemment, survient un événement. Alors, beaucoup de péripéties dans le livre, hein. Voilà, entre, alors, la comtesse Anne de Beaufort, j'en parlais tout de suite. Nous sommes à l'entre-deux-guerres. Donc, après, le fils hein, du comte, également, qui va se révéler, des meurtres. Un muet, hein, avec son fils adoptif, un trésor. Alors, est-ce que tout cela, voilà, est inspiré de faits réel.
Alors, c'est vrai que nous-mêmes, on a vendu une propriété qu'on avait, qui était une propriété familiale, et pour des histoires de succession, on a dû malheureusement la vendre du côté de Ramatuelle. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que c'était pas juste un lieu qui disparaissait, mais c'était voilà toute une âme de souvenirs. Et donc j'avais envie d'écrire une histoire qui se passe dans un même lieu. Et le héros, en réalité, c'est le manoir. Hein. Toute proportion gardée, comme Notre-Dame de Paris est le héros du roman de Victor Hugo. Mais ça, je crois beaucoup à ça, aux énergies. Et là, j'aborde non seulement, évidemment, toujours une histoire sentimentale, mais aussi les codes du fantastique, le roman historique, une enquête policière aussi, parce que on va peut-être se rendre compte que le fantôme est pas sûr qu'il existe vraiment et qu'il y a peut-être des gens qui ont intérêt à les faire partir. Voilà, donc il y a je dirais je suis aussi inspiré par tous les romans un peu voilà de Daphné du Maurier, Rebecca, même Hitchcock ou Bonjour tristesse mais tourné par Otto Preminger, on a une alternance entre le passé et le présent permanente.
Alors, vous dites que vous êtes inspiré hein, d'une histoire vécue. Vous êtes retourné dans cette propriété pour vous inspirer pour votre écriture.
Ah ben j'y retourne tous les étés. Maintenant on loue des appartements à Ramatuelle, mais tous les étés je passe faire un tour dans cette propriété qui reste, qui a été rachetée, mais qui pour l'instant reste abandonnée bizarrement. Voilà, on n'a pas encore reconstruit. Donc il y a, oui je suis. Vous savez, il y a ces mots de Lamartine qui dit objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la vôtre et la force d'aimer? Et je crois beaucoup à ça. Quand j'y vais, je pense à mes grands-parents, je pense à mon mariage qui a eu lieu dans cette propriété. Donc, je crois à ça.
Alors là, on y est complètement. Hein, dans le livre, on est complètement. Donc, tout d'abord, en 1930, avec cette comtesse et toute son histoire, ce mari qu'elle n'aimait pas finalement, hein, qu'elle n'aimait pas, et puis ce mari qui a donc une maîtresse. Voilà, donc cette maîtresse, bon, on va pas tout révéler, mais qui ensuite fait des agissements assez terribles.
Bah, on est en permanence entre l'histoire contemporaine, donc ce jeune couple qui arrive avec ses enfants dans ce manoir et qui petit à petit va découvrir l'histoire terrible qui s'y est passée dans les années 1930, donc qui est la montée du nazisme, etc. Et puis la guerre et effectivement le destin funeste de cette comtesse. Et petit à petit, on va aussi se rendre compte que ce manoir n'a pas été racheté par hasard et que il y a un héritage familial. Voilà, mais je veux pas trop divulguer.
Mais c'est vrai que vous maintenez le suspense jusqu'au bout avec des rebondissements d'ailleurs. Un moment on se dit ça y est, le couple s'en est sorti, enfin bon, et finalement voilà, on se demande vraiment si Marie et Raphaël, hein, donc le couple d'aujourd'hui, de 2024, si leur vie va connaître un dénouement heureux.
C'est un jeu permanent entre l'ombre et la lumière. L'ombre poursuit la lumière. Donc ça, c'est un roman un peu différent de ceux que j'avais écrits jusqu'à maintenant. Le passé éclaire le présent. Ça, c'est une thématique que j'ai déjà abordée dans mes livres. Mais je dirais que là, il y a des scènes peut-être un peu plus violente, un peu plus crue aussi. Il y a certaines scènes un peu érotiques, ce que je n'avais pas fait dans mes précédents romans où j'étais plutôt sur l'amour romantique, qui est aussi dans le roman, mais on a, je dirais, voilà, l'ombre et la lumière.
Oui, là, vous passez, je trouve, dans un autre registre, vraiment celui du grand roman, de la saga familiale.
Oui, c'est vrai que j'ai écrit des récits autobiographiques avec N'oublie pas que je t'aime, avec Les étincelles du bonheur. Bon, après j'ai écrit des romans fantastiques, mais toujours beaucoup sur des histoires d'amour. Là, je suis dans le roman qui est un roman à la fois avec une écriture qui emprunte à des codes anciens, comme j'ai parlé de Daphné du Maurier, mais aussi moderne, je pense, en abordant le transgénérationnel, la sororité, qui sont des thèmes aujourd'hui très actuels.
Oui, alors je rappelle le titre hein, de votre dernier roman, « Les échos du temps ». De Jérôme Arnoux-Wagner qui vient de sortir chez Ramsay. Alors, vos personnages, comment est-ce que vous les construisez? Je pense par exemple à Gontran. qui est donc le fils, hein, le fils adoptif, on peut dire. Oui. Hein, est-ce que également vous inspirez de rencontres?
Ah oui, je vous cache pas que je m'inspire de personnages souvent que je connais. Je mélange parfois plusieurs personnes dans un même personnage. Là, pour Gondran, je me suis inspiré, je pense, de deux personnages que j'ai pu rencontrer. L'un a plutôt sa description physique et l'autre a plutôt sa description morale. Mais quand je démarre un roman, je ne sais pas forcément où je vais. J'ai une idée de départ. J'avais écrit sur un petit carnet, écrire en alternance sur deux périodes dans un même lieu. Ça, c'était mon envie. Et ensuite, l'intrigue, je me laisse mener par mes personnages. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je pense que le lecteur ne peut pas deviner la suite, puisque moi-même, je ne la connais pas quand je l'écris.
Très bien. Donc, ça, oui, ça vient vraiment au fur et à mesure.
Oui.
Et vos personnages sont déjà dessinés à l'avance?
Oui, alors je fais quand même, j'écris une galerie de personnages, hein, un peu comme on écrirait un scénario de film, et j'ai une sorte de plan, si vous voulez, de l'histoire. Je sais à peu près où je veux aller, mais ensuite je peux prendre plein de chemins de traverse et éventuellement changer beaucoup de choses en réalité.
Je pense également au personnage du muet.
Oui.
Là, c'est une pure invention.
C'est une pure invention. Ce que j'avais envie de faire, c'était de créer un personnage. Alors c'est amusant parce que moi, j'ai un de mes fils, parce que j'ai donc deux fils qui ont 29 ans maintenant, hein, des jumeaux, qui a lu le livre, et lui c'est le personnage qu'il préfère, alors que c'est un personnage qui ne peut pas parler, qui est très disgracieux physiquement, et qui va devenir un clé dans cette histoire, va devenir aussi un grand résistant, va devenir c'est peut-être celui qui est le plus attachant, même s'il va connaître aussi une fin tragique.
Oui, d'ailleurs vous lui rendez un hommage à la fin du livre, hein, on peut dire un observateur inédit et indiscret sans doute, qui se cacha dès qu'il se vit découvert, le muet, songea-t-elle?
Oui, parce que c'est le muet qui a vu le crime, mais il ne peut pas en parler, par définition, et tout le monde le considère comme l'idiot du village, donc personne, de toute façon, ne l'écouterait.
Donc là, beaucoup d'intrigues, hein, Jérôme Arnaud. Je vais lire un extrait, hein, justement, au début, lorsque le couple vient d'acheter ce manoir, nous sommes en 2023. L'agent immobilier intervint Raphaël. Ah, ça y est. Maintenant, je me souviens de son prénom. Ses collègues l'appelaient Anne, mais je n'ai jamais connu son nom de famille. Elle m'avait prévenu en effet que personne n'osait plus présenter ce bien, car il se murmurait dans le village que l'endroit était hanté. Et bah, comment avez-vous réagi? Cela m'a fait simplement sourire. Chacun connaît la superstition ancestrale des villages. Et quand nous avons visité le manoir avec Marie, nous avons eu un tel coup de cœur. Voilà, Jérôme Arnaud, c'est un peu le début. Là, j'en suis à la page 100, hein, le début du roman.
Oui.
Qui explique que ce couple, par hasard, va acheter ce manoir. Il a eu un coup de cœur. Il veut acquérir ce bien, et puis nous verrons qu'après, finalement, les deux histoires sont liées.
Oui, ça reste un roman sur l'amour absolu. Ce jeune couple s'aime d'un amour fou, et cet amour va être mis à l'épreuve, hein, évidemment, de ce passé traumatisant, mais il va s'en sortir renforcé.
Voilà. Très bien. C'est un livre aussi qui nous montre toutes les cupidité, hein, de certains humains. Je pense à la maîtresse, hein, de Niels.
Oui, c'est l'ombre et la lumière, oui.
Oui. Alors, dans votre premier roman best-seller, N'oublie pas que je t'aime, vous nous aviez parlé à un moment d'une adaptation cinématographique.
Oui, elle est toujours en cours. Il y a à la fois l'adaptation cinématographique de N'oublie pas que je t'aime, et aussi l'adaptation au théâtre, la suite de N'oublie pas que je t'aime, qui est sortie aussi chez Ramsay juste avant celui-ci, qui s'appelle Jamais je ne te quitterai, qu'on adapte avec Cyrielle Claire, sur le titre sera La vie double. Voilà.
Très bien, beaucoup d'actualité alors.
Oui, je dédicaçais dimanche dernier à la Forêt des Livres et le week-end prochain je serai au Salon International du Livre de Monaco. Voilà.
Ah, très bien, donc pour les Échos du Temps.
Absolument.
Merci beaucoup Jérôme.
Merci beaucoup,
Arnaud
Agnès.
Wagner. Et chers auditeurs, eh bien il est temps de conclure. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous retrouverez donc Marie-Laure vendredi prochain à 18h pour Toute la culture que j'aime.